10 mai, mais le 10 avril. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. L'aide active à mourir, c'est l'une des dispositions contenues dans le projet de loi sur la fin de vie qui sera examiné ce matin en Conseil des ministres. Il est le fruit d'une longue réflexion, en particulier du chef de l'État.
La négociation sur les parcours professionnels et les seniors au travail a achoppé cette nuit. Elle était censée contrebalancer le report de l'âge de départ à la retraite.
Également dans ce journal, le témoignage d'habitants du nord de Gaza livrés à eux-mêmes dans un désert de ruines alors que l'aide alimentaire leur parvient au compte-gouttes. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour.
Nous parlerons de narcotrafic. La justice peut-elle récupérer l'argent ?
C'est la grande réforme sociétale promise par Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat. Un texte sur la fin de vie qui autorise notamment l'aide à mourir selon certaines conditions. Longuement concerté, ce projet de loi est présenté ce matin en Conseil des ministres et le chef de l'État lui a donné l'ambition de créer un modèle français en la matière en tenant compte des clivages éthiques et religieux. Un texte attendu par une majorité importante de Français, mais plutôt combattu par les autorités religieuses et les acteurs du soin palliatif, en particulier sur cette aide à mourir, dont le projet de loi acte donc la création. Le détail avec Mathieu Laurent.
L'aide à mourir sera réservée aux patients majeurs, nés ou résidents de longue date en France et en mesure d'exprimer leur volonté de façon libre et éclairée. Des personnes atteintes d'une affection grave et incurable, engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme. L'aide à mourir consiste en l'administration d'une substance létale effectuée par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire désignée par le patient. Une fois la demande formulée, le médecin du patient a jusqu'à 15 jours pour se prononcer, forcément après avoir consulté d'autres soignants. Opposition frontale des évêques de France qui qualifie l'aide à mourir de mort provoquée. Encouragement en revanche de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui aurait toutefois souhaité moins de restrictions pour pouvoir demander à partir quand la fin s'avance à pas compter. La loi envisage également une nouvelle catégorie d'établissements médico-social, des maisons dites d'accompagnement faites de petites unités de vie ouvertes à l'entourage. Lorsque le retour à domicile à la suite d'une hospitalisation n'est pas possible, une alternative en somme à un séjour en établissement de santé trop médicalisé. Enfin, le gouvernement s'est engagé à débloquer la somme d'1,1 milliard d'euros d'ici 10 ans pour les soins palliatifs et d'aller plus loin dans la prise en charge de la douleur.
Et selon une étude mise en avant justement par les acteurs du soin palliatif, une majorité d'entre eux refuserait d'administrer un produit létal. Les sujets de discussion des parlementaires autour de ce texte risquent donc d'être nombreux. Pour l'heure, par exemple, la loi ne parle pas de directives anticipées dans le processus de l'aide à mourir, ce que dénoncent certains élus. Il faut dire que le sujet de la mort anticipée est par nature épineux, complexe et sensible. En témoigne d'ailleurs le cheminement du chef de l'État avant d'en arriver à ce projet de loi, car à l'origine, Emmanuel Macron ne souhaitait pas légiférer sur la question. Mais Stéphane Robert, il a changé d'avis.
Emmanuel Macron n'a pas une opinion arrêtée sur l'euthanasie et le suicide assisté, ce qu'il a d'ailleurs reconnu en mars 2023, quand la Convention citoyenne sur la fin de vie a rendu ses conclusions.
J'ai en la matière une opinion personnelle qui, comme celle de nombreux Français, peut évoluer, évoluera, qui le sait.
De fait, en mars 2017, deux mois avant sa première élection à la présidence de la République, il fait part sur la chaîne C8 de son avis pour ce qui le concerne, lui, personnellement.
Moi, je souhaite choisir ma fin de vie, oui.
Mais il estime le sujet tellement sensible qu'il n'imagine pas à l'époque de modifications législatives.
Je suis pour qu'on en débatte, qu'on en parle dans un temps apaisé, mais je trancherai pas et je ne ferai pas de loi en arrivant sur ce sujet.
Petit à petit, pourtant, le président va évoluer. Au début de l'année 2022, en campagne pour sa réélection, il en fait un engagement, nous légiférerons. Quelques mois plus tard, en septembre 2022, il dit à Lynn Renault qu'il l'interroge sur la question « C'est le moment de faire et nous le ferons ». Et il est conforté au même moment par un avis du comité d'éthique, selon lequel il existe une voie vers la légalisation de l'euthanasie, et puis par un sondage de l'Institut IFOP indiquant que 78% des Français y sont favorables. Pourtant, Emmanuel Macron va encore prendre un peu de temps et convoquer une convention citoyenne sur la fin de vie qui rend ses conclusions donc en mars 2023.
Vous vous êtes prononcé aux trois quarts pour une aide active à mourir, du suicide assisté avec exception d'euthanasie ou des deux au libre choix de la personne concernée. Comme il y a une volonté générale qui dépasse la somme de toutes les volontés particulières, Nous y répondrons.
Et sa réponse intervient aujourd'hui, un an plus tard, avec la présentation du projet de loi en Conseil des ministres et l'ouverture d'un parcours législatif qui pourrait encore prendre 1 à 2 ans. Avant d'aboutir.
Stéphane Robert, la sécurité a été considérablement renforcée à Paris, mais également à Madrid et Londres, avant les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ce soir de football. Des matchs explicitement menacés par le groupe djihadiste État islamique. Hier, le ministre de l'Intérieur a évoqué une menace caractérisée, évoquée publiquement à travers des messages sur les réseaux sociaux à 100 jours des JO de Paris et peu après l'attentat de Moscou. Plus de 3 mois de négociations laborieuses et un constat d'échec. Le pacte de la vie au travail, censé améliorer les parcours professionnels et se pencher sur la question des seniors au travail, ne sera donc pas signé, aujourd'hui en tout cas, par le patronat et les syndicats qui ne sont pas du tout d'accord sur la dernière version. Ce devait être le pendant du report de l'âge de départ à la retraite, mais tôt ce matin, Camille Marigot, les partenaires sociaux ont fini par acter leur désaccord.
La 5e version du texte aura eu raison de cette négociation pour les syndicats. L'accord présenté par le patronat n'apporte aucun nouveau droit pour les salariés, seulement moins de destruction que prévu et surtout de grands manques, résume Force Ouvrière. Globalement, depuis le début de cette négociation, les positions semblaient difficilement conciliables. Le compte épargne temps universel voulu par la CFDT avait été rayé du texte par le MEDEF et la CPME qui tenaient de leur côté absolument à la création d'un CDI senior, une des lignes rouges posées par les syndicats. Ces derniers diront dans les jours qui viennent s'ils signent ou pas cet accord, mais ce matin, la vie semble partagée. C'est un moment raté, regrette la CFE-CGC qui se demande est-ce qu'on aura encore entre syndicats et patronats un jour l'occasion de négocier sur cette question des transitions professionnelles. Rien n'est moins sûr, même si, à l'exact opposé, le MEDEF salue un travail de qualité entre partenaires sociaux, tout en regrettant l'intransigeance des syndicats.
Et aujourd'hui, une réunion de l'assurance chômage était prévue en cas d'accord sur l'emploi des seniors. Elle a été reportée à une date ultérieure. Les partenaires sociaux recevront plus tard donc une nouvelle lettre de cadrage pour négocier une nouvelle convention d'assurance chômage qui doit, a demandé le gouvernement, permettre de trouver des économies pour réduire le déficit public, un déficit dont l'ampleur pour 2024 devrait atteindre encore au moins 5% du PIB. Selon nos informations, Bercy va délivrer aujourd'hui de nouvelles prévisions. Voilà. La réforme controversée de la sûreté nucléaire a été définitivement adoptée cette nuit par un ultime vote du Sénat. Elle acte la fusion du gendarme du nucléaire, l'ASN, avec l'expert technique du secteur, l'IRSN. Les acteurs de la sécurité d'un côté et de la surveillance du nucléaire de l'autre y étaient majoritairement opposés.
France Culture, il est 7h07, le journal Anne-Laure Chouin, et après 6 mois d'une guerre meurtrière, le nord de la bande de Gaza reste toujours complètement coupé du monde.
Oui, l'aide humanitaire entre au compte-gouttes malgré l'arrivée de camions hier, une goutte d'eau par rapport aux besoins immenses de la population. Dans le nord de l'enclave, la population assiégée manque de tout et tente de témoigner quand même malgré la quasi-absence de journalistes sur le terrain. Notre correspondant dans la région, Alice Froussard, a pu contacter des habitants de la zone avec l'aide de Mohamed Obeid. Écoutez son reportage.
C'est un désert entouré de ruines. La jeune femme qui parle, Malak, décrit le désespoir de tous les habitants qui se trouvent encore au nord de la bande de Gaza. Elle est retournée vivre dans les décombres de sa maison à Jabalia.
Personne ne peut imaginer l'ampleur de la destruction, sauf si vous la voyez de vos propres yeux. Chaque jour est une immense souffrance. Tout est difficile. Trouver de l'eau, faire du feu, on se brûle les mains souvent. On est épuisé moralement et on est désespéré. Mais on essaie de survivre parce qu'on a pas le choix.
Elle le précise dans ses messages vocaux, elle mentirait si elle disait qu'elle allait bien. Malak a perdu des membres de sa famille, des proches, mais aussi tous ses souvenirs. Elle se sent piégée dans le nord, là où les habitants manquent de tout. Depuis 2 mois, il n'y a que des colis d'aide alimentaire largués par le ciel qui arrivent. Certains habitants se jettent sur les vivres, risquent leur vie. Abdelrahman a été blessé la semaine dernière.
J'ai couru pour aller prendre de la nourriture, larguée par parachute. Je connais le danger. Tu peux mourir en te faisant tirer dessus par les Israéliens, te faire piétiner par la foule. Moi, c'est un colis qui a écrasé ma jambe en tombant du ciel. Maintenant que je suis blessé, je suis incapable de nourrir mes frères et mes sœurs.
Il n'y a plus de nourriture sur les marchés, plus rien, ajoute-t-il. Abdelrahman redoute une chose, voir sa famille mourir de faim. C'est tout ce qui lui reste. Son père a déjà été tué. Au début de la guerre, il n'a pas pas pu récupérer le corps pour l'enterrer. Un traumatisme de plus dans une guerre qui semble sans fin.
Quant à la possibilité d'une trêve qu'on disait imminente, elle semble s'éloigner quelque peu, même si les négociations sont toujours en cours. Là-bas aussi, les journalistes sont peu présents. En Haïti, la situation sécuritaire est terrible. Elle vient accentuer encore la situation humanitaire qui se dégrade également. Mais ces derniers jours, les responsables politiques et les représentants de la société civile haïtienne semblent avoir trouvé un accord pour former un conseil de transition. Il sera chargé de restaurer l'ordre sur l'île où les bandes armées font régner la terreur. Les violences, on le rappelle, ont redoublé après la démission du Premier ministre Ariel Henry début mars. Et sur place, les ONG qui ne sont pas parties font toujours face à des défis sécuritaires majeurs. Valérie Crova.
Chaque jour, à bord d'une clinique mobile, l'équipe de l'ONG Alima, composée d'un médecin, d'un infirmier, d'une sage-femme et d'un psychologue, sillonne les rues de Port-au-Prince, du moins quand c'est possible. Carlota Pianigiani était sur place il y a une semaine. Elle est coordinatrice des urgences chez Alima.
S'il y a des attaques, malheureusement, on doit suspendre les activités. Ce qui arrive assez souvent, mais nous arrivons quand même à offrir des soins assez régulièrement.
Les humanitaires restés sur place supplaient les établissements de santé, car la plupart ne fonctionnent plus dans la capitale haïtienne.
Certaines structures ont été directement attaquées. Par exemple, c'est le cas de l'hôpital général, qui est le plus grand hôpital public au milieu de Port-au-Prince. Ces structures-là, ensuite, ont été pillées, vandalisées. Et il y a aussi des structures qui, effectivement, sont pas fonctionnelles parce qu'il y a manque de tout ce qu'il faut.
Avec la fermeture du port et de l'aéroport il y a un mois, c'est toute la chaîne d'approvisionnement des médicaments qui est perturbée, avec une autre conséquence.
Vu la situation, les prix ont doublé, voire triplé. Et donc, et pour les organisations humanitaires, mais aussi pour la population, l'accès aux médicaments est de plus en plus difficile lié au coût, effectivement, de la molécule.
Les premiers cas de choléra ont été signalés parmi les 360 000 déplacés haïtiens.
Les députés européens votent cet après-midi la réforme de la politique migratoire, soit un ensemble de lois baptisé Pacte pour l'asile et la migration, qui devrait obliger les pays d'entrée, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, à enregistrer toutes les demandes d'asile avant de trier les personnes migrantes. En échange et en cas de pression migratoire, tous les autres pays seront mis à contribution. On y reviendra largement dans le journal de 8 heures. On termine ce journal avec les mémoires d'un grand homme d'État allemand décédé en décembre dernier, Wolfgang Schäuble, éternel ministre d'Helmut Kohl et d'Angela Merkel, pilier du parti conservateur CDU, avait écrit ses mémoires avant de mourir. Elles sont parues ces derniers jours et elles ressemblent à un règlement de compte avec son parti, justement. À Berlin, les précisions de Nathalie Versieux.
Wolfgang Schäuble dresse de son parti un portrait peu complaisant, fait d'intrigues contre des dirigeants inamovibles, Helmut Kohl puis Angela Merkel. Wolfgang Schäuble entretiendra avec ces deux dirigeants une relation ambiguë. Kohl, qui convoque son ministre sur son lieu de cure annuel pour quelque affaire urgente, et se pique de le voir nager plus rapidement. Kohl, décrit comme capable de tout pour conserver le pouvoir, Kohl avec qui il rompra définitivement en 1998, l'année où l'indéboulonnable chancelier sera finalement battu par Gerhard Schröder. Ou encore Angela Merkel, un don du ciel selon Schäuble, alors que personne ne misait sur elle pour redresser le parti après le scandale des caisses noires. Quant à Olaf Scholz, il est présenté comme peu adapté à son rôle, celui d'un généraliste, là où le chancelier se perdrait dans les détails.
Un mot du temps de ce mercredi en France, il s'améliore. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, mais le temps va rester sec sur la plupart des régions. Faible pluie tout de même sur le nord-ouest. Comptez encore entre 2 et 7 degrés ce matin, entre 13 et 16 cet après-midi, 17 à 19 en Méditerranée. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Quentin Lafay.
Merci beaucoup Anne-Laure. À suivre la question du jour, Marguerite Caton. La justice peut-elle récupérer l'argent de la drogue ?